Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour, 16h32. On va se brancher avec le maire Bruno Marchand, direct de son bureau de l'Hôtel de Ville. Monsieur Marchand, êtes-vous là?
Je suis là.
Bonjour.
Salut.
Comment ça se fait que vous n'êtes pas en studio aujourd'hui? Trop de trafic?
Non, c'est que l'horaire était trop contraint, je ne serais pas arrivé à l'heure.
OK, parlons de circulation si vous le voulez bien, parlons de trafic, on le sait, dans les prochains mois, M. Marchand, on se lance dans les travaux sur le projet de tramway. En fin de semaine, il y a des commerçants qui sont sortis pour dénoncer le fait qu'on les place devant le fait accompli, qu'ils n'ont eu que quelques jours pour se préparer à la nouvelle réalité. Vous avez réagi sur vos réseaux sociaux. Le post est mystérieusement disparu. Mais qu'est-ce qui se passe?
Non, tout ce que j'ai dit, je le pense encore. Ce n'est pas une question du contenu. Puis je l'ai même répété tantôt aux médias. Il n'y a pas d'enjeu. On doit être meilleur à donner l'information, à la donner plus vite. J'ai parlé aux équipes tantôt. J'ai eu une réunion avec les équipes et j'ai été très clair. Cette information-là, on aurait dû la donner plus vite. On ne l'a pas donnée assez vite et on doit être meilleur là-dessus. Le post est disparu parce qu'il y avait il y avait un petit groupe de haters là, qui faisait du bruit énorme. Là, fait que mon équipe médias sociaux a décidé de la retirer. Moi, je l'aurais laissé, mais je comprends pourquoi, à un moment donné, ça crée tellement de haine.
Mais vous n'avez pas reculé. Vous n'avez pas reculé sur ce qu'il y avait décrit,
non.
Là.
Non, je pense chaque mot qui était là.
OK. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez parlé aux équipes, est-ce que vous avez compris ça avait été quoi le problème de communication?
Bien, alors, ce que je vais te dire, ça explique, mais ça ne justifie pas. Okay? Je vais être clair, ce n'est pas une raison pour justifier. On doit être meilleur. Point. Maintenant, si on veut comprendre ce qui s'est passé, c'est que il y a une stratégie souvent utilisée à la Ville, c'est qu'on donne l'information quand on est sûr des choses. Fait qu'on donne l'information quand on a presque 100% de l'information pour être sûr de donner la bonne information aux citoyens.
Okay.
Le problème que ça crée, c'est que souvent, ce 100%-là, tu l'atteins une semaine, quelques jours avant l'officialisation. Et ça, donc notamment sur les interdictions de stationnement, sur qu'est-ce qui arrivait avec les débarcadères pour les commerçants, et ça fait en sorte qu'on a communiqué avec eux autres beaucoup trop tard. Fait que là, ce que j'ai répété, ce que j'ai dit depuis le début, je ne veux plus qu'on attende d'avoir 100% de l'information. Je veux que quand on en a 80 % ou 70, qu'on aille dire aux citoyens, aux commerçants, voici ce qui s'en vient. Il peut y avoir encore du flottement sur les dates, sur certains éléments, mais on veut vous donner l'information le plus vite possible pour que vous soyez capable de vous organiser. C'est ce qu'on a fait depuis le 26 janvier, quand on a fait la première sortie. Mais il reste encore dans notre culture des gens qui veulent bien faire, qui veulent pas mal faire, mais qui veulent bien faire, qui attendent d'avoir l'information. Fait que l'information n'a pas suivi. Fait qu'elle a été communiquée tardivement, beaucoup trop tardivement.
À la lumière de la première fin de semaine des nouveaux parcours du RTC, j'ai vu que le RTC se félicitait dans un communiqué. Il y a quand même plusieurs centaines d'appels là, de questionnements qui sont rentrés, particulièrement dans la journée d'aujourd'hui. Votre bilan de la fin de semaine, c'est quoi, M. Marchand, par rapport au RTC? Et est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on devra ajuster ou on pense que le plan qu'on a avec le RTC va tenir la route dans les prochaines semaines?
Globalement, le plan va tenir la route. Est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir ajuster? Assurément. Et d'ailleurs, le RTC a presque triplé le nombre d'autobus pour lesquels ils sont capables de déployer rapidement s'il y a des enjeux dans des secteurs pas prévus, par exemple.
Avez-vous des exemples concrets de ce qui est arrivé en fin de semaine que vous dites « OK, ça, faudra s'ajuster, ça va falloir changer, ça, on avait pensé que ça allait marcher, finalement, ça fait pas ».
Ouais. Sur le RTC, là, c'est une première fin de semaine réussie. C'est compliqué le changement. Là. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde s'est retrouvé facilement. Je suis juste en train de dire que la communication avait été faite avant. Ils ont respecté le travail à faire, mais oui, il y a des changements. Par exemple, autour du Grand Théâtre, faire tourner les autobus articulés, c'est pas simple.
Marche pas.
Il faut de réaménager certains espaces de stationnement pour pouvoir permettre les virages. Mais globalement, la communication, les équipes étaient sur place, notamment au Grand Théâtre ce matin, notamment dans les abribus, notamment pour diriger la clientèle. Ils ont fait un bon travail de communication. Ce n'est que le début, là. Mm-hmm. Ce n'est que le début. Mais je suis satisfait de ce que la RTC a livré. Quand ça va mal, je le dis. Quand ça va bien, je pense qu'ils ont fait un bon travail à la fois de com, de support, d'accompagnement. Tu as raison de dire qu'il y a 400 appels en moyenne par jour de gens qui se questionnent, qui ont des commentaires, et on entend tout ça. On a augmenté le nombre de personnes pour leur répondre, pour pas que les gens entendent trop en ligne.
Okay.
Donc, c'est une première fin de semaine, il y a encore d'adaptation à faire, mais ça a bien été, mais on prend rien pour acquis.
Est-ce que ces modifications-là entraînent des dépenses supplémentaires pour le RTC ou des économies? Est-ce qu'on procède à l'embauche de chauffeurs supplémentaires? Qu'est-ce qui se passe sur le côté, sur ce côté financier-là des choses?
Ouais, c'est une bonne question. Non, on n'économisera pas parce qu'il y a tout un travail de communication, d'effort, de mettre des ressources humaines pour diriger les gens. Fait que je n'ai pas le bilan financier. On l'aura, là. On va faire un premier bilan le 7 avril. Donc, le 7 avril, on va avoir eu deux, trois semaines, là. On va faire un premier bilan avec la population, avec les communications, les journalistes. On fait le bilan de la question de l'utilisation des chaussées, des temps d'attente, le RTC, l'utilisation par la clientèle. On va pouvoir voir après deux, trois premières semaines qu'est-ce qu'il y en est. Puis peut-être qu'on aura les premières infos sur la question financière, mais ça, j'ai pas ça aujourd'hui.
OK. À quelques jours du début des travaux, vous étiez en Alberta en compagnie, entre autres, du responsable des communications citoyens et du responsable des communications avec les commerçants. Ça fait-tu partie des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont peut-être senti qu'on les laissait un peu tout seuls sur le terrain? C'était un peu... c'était tough comme timing, le timing de cette mission-là en Alberta, M. Marchand.
Je suis pas d'accord.
Non?
Je suis pas d'accord, non. Je suis pas d'accord parce que, vous voyez, Jean-Luc, qui est responsable avec les commerçants, dès qu'il est revenu, samedi, dès qu'il y a eu les premières plaintes, parce que samedi, il rentrait le réseau en fonction, oui. Il était sur le terrain, il est allé voir les commerçants, on était à Québec, Raymond était là. Donc, la mission en Alberta, elle avait un très bon timing. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de voir des choses qu'on va pouvoir améliorer tout au long des prochaines semaines, des prochains mois.
Comme par exemple?
On a pu, la communication. Une des choses qu'ils nous ont dites, puis c'est ce que je répète depuis janvier, mais ça a permis aux équipes de l'entendre, puis ça m'a permis de le répéter tantôt en réunion, on va communiquer plus proactivement que d'attendre d'avoir toute l'info, même si la communication des fois va être à bouger, à modifier un peu. C'est des choses qu'on a apprises du travail avec la ligne verte à Calgary. C'est comme ça qu'ils communiquaient, qu'ils nous ont montré des commandes, nous ont montré des outils qu'ils utilisaient, nous ont montré des éléments, où la façon de communiquer avec les citoyens, puis ça va nous aider beaucoup pour la suite des choses. L'autre chose que ça nous a permis de réaliser, c'est des éléments liés à comment tu gères la question des trafics. C'était une super bonne mission, sincèrement. On avait une bonne délégation, mais c'est honnêtement, là, les gains pour la ville sont énormes quand on apprend des autres villes plutôt que de se penser si unique que ça puis de ne pas apprendre des autres.
Mais ce n'est pas des échanges d'informations qui peuvent se faire à distance. C'est toujours le questionnement qui revient à chaque fois qu'il y a une mission à l'extérieur, là.
Ça, c'est vrai. C'est toujours le questionnement qui revient. Tu sais quoi? J'aurais pas passé ma semaine en Alberta, je savais plus. Là. Pourquoi on le fait comme ça? C'est parce qu'on a pu amener des gens pour prendre les premiers contacts. Après ça, il y a plein de visios, il y a plein de téléphones qui peuvent se faire. En anglais, on dit un cold call. Là, quand tu appelles quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne donne pas tant d'informations que ça. Il regarde le niveau de confiance. Est-ce qu'il te partage l'information, les mauvais coups? T'sais, ils nous ont partagé les mauvais coups. Mais ça prend la capacité de créer un climat de confiance. Ça prend la capacité de voir les deux maires impliquées et dire on va partager. On donne le ton, on donne l'espèce de vibe à la chose parce qu'on veut apprendre les uns des autres. Moi, je regrette pas cette mission-là. Elle a été très, très profitable. Elle nous a permis de placer beaucoup, beaucoup de choses pour la suite. C'est une très bonne mission en fonction des objectifs qu'on avait.
C'est quoi les erreurs qu'ils ont faites à Calgary et Edmonton qu'on fera pas à Québec, M. Marchand?
Ben d'abord, au départ, parce que les autres, ils ont commencé en 1978. Hein. Edmonton a eu sa première ligne en 1978 de train léger. C'est un tramway, mais ils appellent ça un light train. 81 pour Calgary. Donc, ça fait 40 ans qu'ils font ça. Fait qu'ils ont vraiment de l'avance sur nous. Puis ce qui est intéressant, je me permets d'aparté, il n'y a pas grand monde là-bas là, qui dit que c'est pas bon, là. Même les utilisateurs d'auto, même ceux qui n'utilisent pas le transport collectif, tout le monde voit ça comme un « et ». C'est l'auto, le pick-up, le camion et le train, pas un ou l'autre. Mmh. Et ça, on a quelque chose à apprendre de ça, sur comment ils communiquent. Une des choses qu'on a à apprendre, c'est qu'ils planifient ça 15-20 ans d'avance. Tu regardes le déploiement, autant à Edmonton qu'à Calgary, là, ils sont capables de dire où ils vont être dans 15-20 ans, avec des extensions de lignes, avec des ajouts, avec des stationnements incitatifs. Il y a un plan qui est bâti pour le long terme. Et ça permet de voir, pour les citoyens, de voir où on s'en va. Ça permet de le financer, ça permet de le travailler. Ça permet de pas toujours en faire un peu puis arrêter ce qu'on a tendance à faire au Québec.
En plus, le plan a changé de bord, à un moment donné, on a tellement eu de tracés possibles de tramway dans un sens et dans l'autre que maintenant, on ne sait plus. Puis là, on se lance dans une phase 1 avec énormément d'hésitation avant même de parler de la phase 2 et de la phase 3. on a créé ce climat-là à Québec?
Oui, je pense que tu as raison. On l'a alimenté par des allers-retours éternels, là. Mais on a aussi, à Québec, un regard à poser sur nous-mêmes, là. Des fois, on a tendance à se diviser. On a tendance à être contre les projets. Pas tout le monde, mais on a tendance à être sceptique. On a tendance à avoir peur.
Mais c'est pas sain, ça, de poser des questions, d'avoir des doutes, de remettre en question.
Oui, ben oui, c'est super sain. Mais il y a quelque chose qui est malsain. C'est pas de remettre en question, c'est pas d'avoir des doutes. Il faut. Ce qui est malsain, selon moi, c'est de jamais avancer. Quand ça fait 10 ans que tu discutes d'un projet, ce projet-là, ça fait plus que 10 ans qu'on en discute, mais il y a encore des gens qui veulent le remettre en question, qui veulent nous faire arrêter, qui veulent nous ramener à case départ. Là, il y a quelque chose qui marche pas. Calgary, 81, Edmonton, 78, ça fait plus de 40 ans. Ils ont de l'avance sur nous énormément, puis pourtant, c'est une province de pétrole. Là.
Monsieur Marchand,
alors, ils avancent. Oui?
Je veux revenir sur la question de Denis, parce que la réponse m'intéresse vraiment. Les erreurs qu'ils ont fait à Calgary qu'on ne fera pas, vous dites que vous avez pu voir ça, c'est lesquelles?
Bien, d'abord, toute la question de la communication dont je parlais tantôt, cette proactivité-là, ils l'ont développée avec le temps. Fait qu'on a appris ça d'eux. La question de la gestion des entraves et comment on communique, eux autres aussi, dans le temps, ils se sont bonifiés, notamment avec des plateformes électroniques qui permettent. Nous autres, en mai, là, on va avoir, les gens vont pouvoir s'inscrire, on va avoir la plateforme, la première plateforme, on n'avait jamais eu ça à Québec, d'infotravaux. Fait que c'est pas juste, les gens vont pouvoir écouter Boulevard et être informés, mais ils vont pouvoir aussi s'abonner puis recevoir des textos ou des communications pour dire attention, René Lévesque ou tel secteur.
Okay.
Puis au début, on le fait sur le tramway, puis après ça, on va le faire sur tous les travaux. Fait que ça va être bon après ça pour de la faune, ça va être bon pour Laurentien, ça va être bon pour informer notre monde. Ils sont beaucoup, beaucoup proactifs dans l'information. Et comme je disais tantôt, ils n'attendent pas à la dernière minute pour communiquer, ils n'attendent pas d'être sûrs à 100%. Et ça fait partie de nos grands efforts de communication qu'on doit. On doit changer notre culture à Québec. Et ça, c'est un effort qui va prendre plusieurs semaines.
Monsieur Marchand, si vous voulez que les mentalités changent, le gouvernement vous aide pas beaucoup. La CAQ estime que le projet de tramway est encore à l'étape de la planification et qu'on n'est pas encore à l'étape de la réalisation. Je comprends que c'est de la sémantique, mais ça donne quand même du gaz pas mal à ceux qui argumentent qu'on va trop vite pour, couper des arbres centenaires et pour le reste des travaux.
Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est des termes de gestion de projet, c'est des termes de gestion comptable du gouvernement du Québec. C'est normal que le gouvernement attende le dépôt final du projet. Le dépôt final du projet qui va se faire par CDPQ Infra, qui va travailler avec son partenaire pendant les 18 prochains mois pour ce qu'on appelle maintenant co-construire. Avant, on procédait par appel d'offres. Donc, on arrivait avec un cahier, puis on disait à l'entrepreneur, à des entrepreneurs, comment ça nous coûte faire ça? Puis là, on s'est aperçu que les entrepreneurs, pour plein de raisons, se mettaient des protections, ça coûtait plus cher. Fait que le gouvernement du Québec a dit, on va travailler différemment. Ils ont regardé ce qui se faisait ailleurs, notamment au Canada. Et donc, le partenaire qui va être choisi par CDPQ Infra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler avec eux pendant 18 mois pour dire où on peut réduire les coûts, où on peut accélérer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, on va avoir le coût total et le projet final. De sorte que c'est là que le gouvernement du Québec va dire, OK, on va de l'avant parce qu'il reste cette étape-là importante. Moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'on est en train de travailler très fort, la ville avance. Et couper les arbres, ben, je vais revenir là-dessus, là, mais il y a 1500 arbres au total qui auront été coupés. Il y en a déjà 500 qui sont coupés. Là. Sur les 1500, il y en a une partie déjà coupée et une partie à couper. Il y a 325 frênes qu'il fallait couper de toute façon parce qu'ils sont vulnérables à la grille du frêne.
Ouais.
C'est plate de voir perdre des arbres matures. Là. Moi, je suis d'accord avec tout le monde qui pense ça. Mais n'oubliez pas qu'on en a déjà replanté 15 000 dans les quartiers où on a coupé ces arbres-là. Puis on va en planter un autre 15 000. C'est notre engagement de planter 30 000 arbres, un ratio de 20 arbres à planter pour un arbre coupé, pour recréer des quartiers riches en canopées verts. La ville, elle va être embellie par le tramway. C'est pas vrai qu'elle va être complètement rasée. Il y a des gens qui se préoccupent des arbres qui sont sincères, mais il y a des gens présentement qui se préoccupent des arbres juste pour faire arrêter le projet. Puis ça, c'est malhonnête.
Non. Ces gens-là vont être de tous les enjeux où il y aura de la coupe d'arbres. Moi, j'en suis convaincu.
Tous les enjeux écologiques, en fait.
Bien, probablement, oui. J'imagine.
C'est pas tout le monde qui est écologique là-dedans. Là.
C'était ironique, M. Marchand.
Je faisais une blague.
On en a un qui était à l'opposition. Je me souviens pas qu'il y a eu le goût de frencher un arbre depuis 2 ans. Là.
Sans frencher un arbre, pensez-vous qu'il va aller s'enchaîner autour d'un arbre centenaire pour empêcher la coupe? Oui, avec des gens de Greenpeace, peut-être?
Ben, ça serait un mix extraordinaire. Aurais-tu pensé voir ça, Stéphane Lachance, avec Greenpeace?
On vit dans un monde de plus en plus particulier, je vous dirais.
C'est vrai.
Tout est possible. Monsieur Marchand, juste pour terminer le volet de la mission en Alberta, on le sait, à Edmonton, entre autres, il y a des problèmes d'itinérance majeurs. Y ont-tu trouvé quelque chose que nous autres, on n'a pas vu à Québec? Des pistes de solutions, des façons de faire, je ne sais pas.
Non, c'est pire que chez nous.
Mais là, c'est le futur de Québec ou...
Pardon?
Est-ce que c'est le futur de Québec?
Bien, ça, il n'en tient qu'à nous. La question est tellement pertinente. Cette question-là, là, il faut la garder. Si on ne fait rien, ça pourrait être notre futur. Puis, en lien avec les lignes de tramway, là, de train, eux autres, là-bas, c'est le paiement se fait dans le train. Fait que les itinérants, pour se réchauffer, vont dans le train.
Ouais.
Fait que ça fait en sorte qu'il y a une désaffection des gens. Il y a des itinérants qui passent dans le train. Ça crée un paquet de problèmes parce que parfois, les comportements font peur à des gens. Fait qu'on si on laisse aller les choses, ben oui, dans 7 ans, dans 6 ans, dans 5 ans, on pourrait être à l'équivalent d'Edmonton et Calgary. C'est pas beau, là. C'est pas beau. Puis c'est pas une question de dire, on veut pas avoir d'itinérance. C'est une question de prendre soin des gens. Puis présentement, Calgary et Edmonton ne sont pas des modèles.
Vous avez annoncé la réfection de 5 escaliers qui relient la basse et la haute ville de Québec. Parmi ceux-ci, il y a l'escalier du Faubourg. S'il n'y a pas de vidéo virale qui dénonce la pourriture de l'escalier, est-ce qu'on fonctionne avec le même agenda de la même façon? Oui? C'est pas quelque chose qui a mis de la pression, ça?
Non. Non. L'état des infrastructures, c'est pas parce qu'il y a une vidéo qui va faire en sorte qu'on va le faire ou pas. Là, on répond pas à... C'est pas comme ça qu'on doit gérer une ville. Alors, l'opposition fait... sa démonstration, puis elle l'a bien fait dans ce cas-là, soyons honnêtes, mais ça ne change pas au calendrier. Le calendrier, c'est un calendrier en lien avec les priorités qui nous sont données par la Ville, puis les élus là-dedans, on travaille avec la science, on travaille avec les faits. On savait que cet escalier-là du Faubourg était délabré, on avait besoin, puis c'est pas le seul, c'est pour ça qu'on met 4 millions pour plusieurs escaliers. Les escaliers sont importants, font partie du patrimoine, mais aussi de la mobilité de Québec, puis on arrive avec un plan pour le faire.
Dossier du journal Le Devoir sur les pistes cyclables accessibles en hiver à Québec, mais très peu fréquentées. Est-ce qu'on se paye un caprice qu'on n'a pas les moyens d'entretenir avec ces infrastructures-là qu'on entretient en période hivernale, alors que les chiffres au niveau de l'affluence ne sont pas là, M. Marchand?
Bien, ils ne sont pas là. C'est vrai qu'il y en a moins. Tu as raison qu'il y en a moins que l'été. Il y en a beaucoup moins que l'été. Mais... quand on regarde la mobilisation à vélo l'hiver, elle a augmenté de milliers de personnes qui font du vélo l'hiver. Donc, la question, c'est, est-ce que ça en vaut le coup?
De milliers de personnes ou de milliers de passages? Parce que moi, je peux dire bonjour au même gars sur le Bourgneuf à tous les jours qui passe, M. Marchand.
Dans un sens et dans l'autre.
Oui, mais je vais te donner le chiffre. Là. On parle de milliers de personnes de plus qui font du vélo l'hiver. Mais c'est sûr que ça ne se compare pas à l'été, là. On est d'accord. On est vraiment d'accord. Cependant, je cherche le chiffre pendant que je vous parle, là, mais cependant, il n'en demeure pas moins qu'on ne déneige pas toutes les pistes là. On déneige les corridors vivacité, entre autres. Puis ces corridors-là ont un gain pas juste sur le vélo. On a plus de piétons, on a moins d'accidents, il y a une réduction de la vitesse, il y a des gains qui ne sont pas juste pour le vélo. Là, puis c'est pour ça que ça s'appelle corridor vivacité. Ça s'appelle parce que ça a des gains bien plus largement que ça. Je l'ai trouvé, la statistique, là. En 2020, il y avait 6000 personnes à Québec qui déclaraient avoir fait du vélo entre décembre et mars. En 2025, c'est 19 000. Donc,
ça compte-tu les fat bikes ou c'est uniquement des gens qui utilisent les pistes cyclables?
C'est des gens qui... non, pas des gens qui vont faire du fat bike en montagne, là, mais des gens qui utilisent ils peuvent utiliser un fat bike, mais qui le font en ville. Fait que, tu sais, c'est 13 000 personnes qu'on sert. Au-delà de tous les bénéfices que j'ai donnés juste avant, on fait quoi? On se dit, ces 13 000-là ne sont pas importantes. Je vous ai déjà donné cet exemple. La rue à Val-Bélair, là, puis l'opposition avait repris ça en disant, il ne veut plus déneiger à Charlevoix, c'est pas rapport. Je fais juste dire, la rue à Val-Bélair, qui a 50 personnes, on la déneige pareil, elle est importante. Puis s'il n'est pas question de ne pas déneiger, c'est la même affaire.
Mais là, il y a les véhicules de sécurité qui circulent dans les rues, M. Marchand. Il y a tout ce qui est ramassage des ordures. Comparer une rue à une piste cyclable, il faut faire attention, là, c'est un raccourci.
Ben, OK, tout comme c'est un raccourci de dire que c'est pas utilisé et ça ne vaut pas la peine. T'sais, ça va dans les deux sens, le raccourci. Si on a besoin de déneiger une rue, puis c'est tout à fait logique, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour les personnes qui y vivent, ben, on le fait aussi pour des gens qui se déplacent autrement. Maintenant, il n'y aura jamais autant de personnes l'hiver qu'il y en a l'été. Mais présentement, il y a comme un combat contre les corridors vivacité en disant, ah, il n'y a pas assez d'utilisateurs. Il y en a 13 000 de plus qu'il y a 5 ans. Quelqu'un pourrait dire, c'est pas assez, parfait. Il y a plus de piétons, il y a moins d'accidents, puis il y a le ralentissement de la vitesse. Il y a quand même des gains importants. Même si parfois, on ne voit pas 100 000 cyclistes comme on peut voir l'été, on en voit quand même. Alors, moi, ce que j'essaie de regarder, c'est comment ça évolue pour voir à quel point on va continuer de le faire et jusqu'à quel niveau on va le faire.
On commence à connaître nos hivers un peu à vue d'œil. Je vais y aller avec une prédiction facile. Ça va être un printemps riche en nids de poules à Québec. C'est déjà un peu le bordel dans bien des axes majeurs de la ville. On a-tu un budget spécial pour ça ou un budget supplémentaire de prévu? C'est quoi les chiffres à ce niveau-là? Parce que on le sait, avec le type d'hiver qu'on a eu, les routes sont maganées, là, solides. Là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis elles sont maganées aussi parce qu'il faut mieux entretenir nos infrastructures, notamment les routes. Alors, présentement, on donne un contrat, on en a entendu parler avec Montréal, là, le Python 5000,
Oui.
c'est une machine qui vient colmater, là. Fait qu'on a le travail qui commence. Avant, ça se faisait manuellement parce que dans les conditions hivernales, le Python 5000 n'était pas arrivé, là. Mais on va boucher les trous. Les gens appellent au 311, dépendamment des moments. Puis tu as fait raison, à un moment donné, quand le gel dégel se fait, ça crée des rues qui parfois sont difficilement carrossables. Mais on va tout boucher. On a un bon niveau de bouchage, c'est-à-dire que ça va assez vite. On essaye idéalement que ce soit maximum en une journée ou deux. Des fois, ça arrive qu'on se rend 3 jours parce qu'il y en a trop. Mais les équipes travaillent fort pour les boucher les plus rapidement possible. Puis c'est sûr que quand on se compare, on se console. On n'est pas du tout dans la situation de Montréal, mais c'est pas une raison pour pavaner.
Il y a des commerçants qui sont sortis pour partager leurs inquiétudes sur Grande Allée cet été avec les terrasses et ainsi de suite. On propose des solutions puis des alternatives. Vous avez répondu que c'était une belle sortie qui avait été bien faite, bien articulée et que vous alliez trouver des solutions pour ces gens-là. Les avez-vous, les solutions pour cet été? Je sais qu'entre autres, on voulait parler d'un possible changement de zonage pour être en mesure d'exploiter peut-être l'arrière de certains restaurants pour mettre une terrasse et ainsi de suite. Est-ce que ça a avancé, cette réflexion-là?
Bien, le travail avance. Je sais pas où ça m'est rendu dans sa finalité, là. Fait que j'ai pas pris l'information cette semaine parce que j'étais absent à Calgary, mais ce qu'on me dit, c'est que le travail avance. Mais je vais vérifier quand est-ce qu'on prévoit que ça soit final.
OK. Le budget provincial, c'était la semaine dernière. Pas grand-chose pour personne. Pour les municipalités en général, pas grand-chose pour Québec en particulier non plus. La CAQ laisse les coffres pas mal vides pour la succession. Avec un paquet de projets sur pause à Québec, comment une ville comme la nôtre entrevoit les prochaines années à ce niveau-là? On dirait que la pression que bien des gens, dont vous avez essayé de mettre, ça n'a pas changé grand-chose à ce qui se passe ou ce qui se passe pas présentement à Québec, là?
Bien, sur les infrastructures, ce qui a été mis pour les municipalités, c'est insuffisant. Et puis si on le levait à Calgary, tu sais, à Calgary présentement, là, puis pas pour une journée, c'est comme ça depuis des semaines, ça va être comme ça encore pour 2 semaines, on te demande de ne pas prendre ta douche plus que 3 minutes. On te demande de diminuer l'utilisation de flusher la toilette. On te demande de diminuer le nombre de lavages que tu fais, puis le nombre de lavages de vaisselle que tu fais avec ton lave-vaisselle. On te demande, si tu le fais, de le faire avec des lave-vaisselle puis un lave-linge rempli. C'est fou, là. On n'est pas habitué ici au pays de l'or bleu là, de connaître ça, des restrictions comme ça. C'est leur deuxième grande restriction, puis ils vont en avoir une troisième à l'automne parce que le tuyau principal qui amène l'eau pour 2 millions d'habitants, il est brisé, puis il y a des fuites. Puis là, ça crée des problèmes. Ils sont obligés de ralentir le débit pendant qu'ils font les réparations. Des réparations qui vont avoir duré au total sur 2 ans ou plus. C'est énorme, là. Fait que quand je dis au gouvernement, vous devez vous occuper avec nous des infrastructures municipales, puis on est prêt à mettre notre argent, nous. Historiquement, le Québec a toujours mis à peu près 50 % des montants d'infrastructures municipales.
Là, on n'est plus là, là.
Non, puis il n'y en a pas. Alors, la portion des investissements du Québec en infrastructures a diminué pour les municipalités, alors que les villes représentent 60 % des infrastructures de tout le Québec. Alors, dans le dernier budget, on a augmenté les investissements en santé, pour les infrastructures de santé. Tant mieux, on en a besoin. Nos hôpitaux font dur dans plusieurs cas. Pour les écoles, un peu. Mais pour les municipalités, très, très, très peu. Fait que ça, c'est de ça dont on parle. C'est les eaux usées. Vous avez vu l'enjeu avec Lévis. Vous avez
Oui.
vu ce que je vous parle de Calgary, mais Montréal a ces enjeux-là aussi. Si on ne s'occupe pas des infrastructures, on a beau pas les voir, quand ça pète, c'est un maudit problème, puis pour longtemps. Puis en plus, ça coûte plus cher. Fait qu'on a beau dire on va entendre, là, on va quand même mettre la main dans notre poche. Mais au lieu de la mettre maintenant avec des frais X, ben on va les mettre avec des frais X plus 2, X fois 2, X fois 10, parce qu'on va le faire en urgence, parce qu'on va le faire plus tard, puis ça va coûter plus cher. Moi, je pense qu'on a beau avoir des finances qui sont dans un état, à la ville, ça va très bien, dans un état plus précaire, s'occuper de nos infrastructures, s'occuper de grands enjeux comme ceux-là, si on ne le fait pas maintenant, ça va nous coûter plus cher, exactement comme une maison. Tu peux laisser couler ton toit en disant que tu n'as pas d'argent, mais dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, tu vas réparer quoi? Ton toit, ton entretoit, la moisissure qui va avoir pogné, la moisissure d'un mur, tu vas ouvrir tes murs, ton plancher qui va gondoler. Pas sûr que c'est payant.
Monsieur Marchand, le fait de se parler une fois par mois, ça permet de revenir sur certains dossiers. J'aimerais qu'on revienne sur le déneigement de cet hiver. Finalement, il y a eu un bon nombre de plaintes en continu, donc pas seulement pour novembre et décembre. Avez-vous changé votre appréciation du travail effectué cet hiver? Puis je pense qu'il y a eu un fiasco en Haute-Ville à un moment donné là, où on faisait débarquer des autobus de touristes dans
Mon
le raid
Dieu,
d'Aricana, là,
effectivement.
avec la glace qui n'avait pas été déblayée.
Comme s'il n'y avait pas eu de nettoyage pendant la fin de semaine.
C'est-tu plus difficile de faire travailler les
Non.
employés la fin de semaine? C'est une problématique à ce
On a
niveau-là.
vu des samedis puis des dimanches où, en temps normal, on aurait pu espérer des opérations déneigement, puis c'est rien passé. On a repoussé ça au lundi, entre autres une fin de semaine où
Mais...
tout a durci le lundi, puis ça a été un capharnaüm
Ouais.
sur les routes.
Mais ça, alors sur le grattage, ça ne change rien. Sur l'opération de ramassage, ça nous est demandé par les citoyens et plusieurs commerçants de ne pas faire d'opération de déneigement le vendredi puis le samedi, parce que les gens reçoivent chez eux des amis ou.